Donc moi, j'avais vraiment envie de réenchanter l'entreprise. Et réenchanter l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui redonner ses lettres de noblesse. Et une entreprise, ce n'est pas une machine à faire du profit. C'est un lieu, une aventure humaine où, ensemble, des gens vont contribuer à une œuvre que tout seul, ils ne pourraient pas faire. C'est véritablement l'esprit des cathédrales du Moyen-Âge.
Bonjour au podcast Minter Dialogue, épisode numéro 93. Aujourd'hui, c'est le 25 avril 2019. Et cet entretien est avec Gaël Monteiller. Gaël s'est converti en entrepreneur après un parcours puissant et très réussi dans des grands groupes tels Lafarge et PSA. Elle est également co-auteure de Happy Management aux éditions Dunod et est désormais co-fondatrice de Your Todd, une nouvelle plateforme disruptive pour le recrutement, où les candidats et entreprises font le match d'une toute autre manière que d'habitude. Dans cet entretien avec Gaël, nous parlons bien sûr de Your Todd, mais aussi comment les entreprises doivent s'adapter pour mieux recruter, garder et motiver ses employés. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Minter Dialogue en français, où on parle des marques, des nouvelles technologies et comment les entreprises doivent s'adapter à la transformation digitale. Je suis Minter Dial, votre compère pour ce podcast. Vous pourrez trouver les show notes sur mon site minterdial.fr, où vous aurez tous les liens et références cités lors de cet entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Bonjour et bienvenue au Minter Dialogue. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un enregistrement, mais il fallait que je fasse ça puisque j'ai rencontré quelqu'un qui m'a intéressé beaucoup sur un sujet qui m'intéresse. Gaël Monteiller, merci beaucoup d'être venu. Expliquez-nous un peu votre parcours, Gaël. Merci d'être venu.
Bonjour, écoutez, merci de cet échange. Donc, Gaël Monteiller, écoutez, j'ai un parcours au début très classique dans l'industrie où j'ai dirigé des business units dans des secteurs très manufacturiers, donc dans le béton, j'ai dirigé une usine automobile et je me suis aperçue que j'ai managé de façon innée, de façon spontanée en m'intéressant aux gens, en essayant de porter, d'emmener mes équipes le plus loin possible, en leur donnant du sens, en construisant des projets auxquels tout le monde adhérait. Et en faisant ça, on reçoit énormément de ces équipes et surtout, on emmène l'entreprise bien plus loin qu'elle n'aurait osé imaginer aller toute seule.
Alors, dans le béton, je ne peux que imaginer que c'est un monde très masculin, très régulier, beaucoup d'ingénieurs. Comment est-ce que vous êtes arrivé à imposer votre manière?
Alors le béton, c'est surtout un monde d'hommes, mais d'hommes au sens d'humain. C'est un monde rempli d'humanité. Et en fait, j'ai souvent l'habitude de dire, quand je suis passée du béton à l'automobile, que je suis passée d'une entreprise d'hommes à une entreprise de process. Le béton, on n'a pas le choix. C'est une industrie avec un produit ultra frais, où tout le monde doit être sur le pont pour que de la production à la livraison sur le chantier du client, il ne se passe pas plus de 2 heures, sinon le produit prend et c'est fini. Et du coup, ça crée une cohésion d'équipe incroyable. Et comment j'ai fait pour justement emmener les équipes, leur faire comprendre l'importance de l'équipe, du collectif et des valeurs humaines? Simplement en m'intéressant à eux. Je suis arrivée dans un métier que je ne connaissais absolument pas. J'ai été nommée patronne.
J'imagine qu'à ce moment-là, vous n'avez pas senti que vous étiez dans le milieu pour vous. Enfin, c'était un peu désemparant pour vous aussi.
Désemparant, non, parce qu'en général, j'aime bien les challenges. Et je me dis que si on m'a mis là, c'est que je devais y arriver. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions sur le fait, suis-je à ma place ou ne suis-je pas à ma place. En revanche, c'était mon premier poste managérial. Qu'est-ce que je dois faire en tant que manager? Et n'ayant pas forcément eu de réponse, je me suis dit, je vais aller voir tout le monde et je vais leur demander de m'expliquer ce qu'ils font pour ensuite pouvoir prendre du recul et construire avec eux un projet collectif où chacun trouverait sa place.
Le béton, dans ce cas-là, ça ressemble à la nourriture fraîche. Enfin, quand on fait de la livraison de nourriture, on est sur un temps très limité par rapport à la voiture qui est sur des cycles tellement plus longs.
Je dirais que ça ressemble plus à de la cuisine et à du produit vivant. Voilà, c'est une centrale à béton, c'est une mélange. Et d'ailleurs, en belge, on parle de recettes. Et donc, c'est très humain, c'est très ça vit. Voilà. Alors qu'effectivement, la voiture, c'est très processé. Il y a des modèles, il y a des process, il y a des procédures, il y a des gammes de fabrication. Il y en a dans le béton, mais c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus vivant. Ça dépend de la température, ça dépend de l'humidité, ça dépend de plein de choses. Et donc, il y a beaucoup plus de gestion du matériau. C'est effectivement un produit vivant. Et on parle souvent, on avait fait une exposition, liquid stone. C'est de la pierre liquide qui prend forme dans la position où on va la positionner. Donc, c'est extraordinaire.
Et donc après le béton, donc la voiture, et vous pourrez nous parler de votre expérience et comment vous avez amené votre esprit, votre manière dans la voiture.
Alors c'est vrai que dans la voiture, c'est beaucoup plus surprenant. Donc je suis arrivée à la tête d'une usine où il y avait 7000 personnes et le monde automobile est un monde beaucoup plus traditionnel où effectivement, théoriquement, celui qui dirige, c'est celui qui sait faire. Et moi, je suis arrivée en leur disant, écoutez, je n'y connais rien à la voiture. Bon, je leur ai pas dit que la voiture, c'était pas mon truc, mais c'était quand même pas mon truc. Donc, en revanche, le management, la fabrication, là, j'étais complètement dans mon élément. Et effectivement, quand je leur ai dit, écoutez, le chef, il est pas là pour faire. Il est là pour que tous ensemble, on aille le plus loin possible. Donc, je leur ai dit, moi, je vais m'intéresser à votre métier. Je vais m'intéresser à vous. Mais c'est vous qui allez me dire comment on fait une voiture. Et je ne vais pas me substituer à votre vrai savoir-faire. En revanche, je vais révéler vos vrais talents et je vais faire en sorte que tous ensemble, collectivement, on aille beaucoup plus loin.
Dans vos deux expériences, comment est-ce que vous qualifiez l'importance de la culture de l'entreprise? Parce qu'on peut dire que la voiture est processée, que c'est traditionnel. Je prends Tesla, ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, beaucoup moins. Comment est-ce que vous qualifiez l'importance de cette culture et percevoir la culture d'une entreprise à une autre?
À la culture de l'entreprise est essentielle. Et elle se lie au travers des valeurs humaines affichées, mais surtout incarnées. Donc, la première entreprise dans laquelle j'étais, c'était le groupe Lafarge, qui était empreint de cette culture humaniste, avec un vrai respect de l'homme et une place centrale donnée à l'homme. C'est l'homme, la famille et... On est une vraie famille. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile d'intégrer ces valeurs humaines et ce management par le sens, par la vision, alors que dans l'automobile, et plus particulièrement chez PSA, c'était une culture beaucoup plus industrielle au sens... Alors, je sais que ça ne plaît pas, et je m'en excuse auprès des anciens de PSA, mais chez PSA, c'est très clair. On est passionné par les voitures. On préfère les voitures aux hommes. Ça ne change rien, ça n'altère pas les vraies valeurs humaines des gens qui sont chez PSA, qui ont toutes des très belles valeurs de respect, d'engagement. Mais ces valeurs-là, elles ne sont pas mises au service de l'entreprise. Au service de l'entreprise, c'est le savoir-faire, c'est la rigueur. Et effectivement, c'est plus compliqué d'amener un management par les valeurs humaines, par révéler les vraies forces, ce que l'homme a de singulier et d'humain. C'est plus compliqué de l'amener dans une culture managériale beaucoup plus cadrée et beaucoup plus processée. C'est pas forcément l'automobile qui est processée, c'est la culture managériale. Voilà.
Ah ben c'est drôle parce que de toute façon, comme vous le savez, je partage avec vous un ancêtre, on va dire, dans l'automobile. C'est mon père qui a travaillé chez PSA pendant 10 ans, 12 ans. Et donc, je connais un peu à travers lui ce qui en était de la culture. Alors, donc, Gaël, maintenant, vous vous êtes lancé, après ces deux belles expériences, à faire un projet où on met le talent et l'être humain au centre. Donc, racontez-nous ce qu'est le projet et comment vous êtes tombé sur cette idée.
Alors, en fait, en sortant de ces deux grandes expériences managériales, au début, j'ai pas eu envie de sortir de l'industrie. Mon idée était de se dire, notamment chez PSA, vous avez des talents, des valeurs humaines, un capital humain énorme, mais sous-exploité, parce que vous le réduisez à des cases, à des process, à des KPI. Donc moi, j'ai proposé de mener des transformations humaines, l'idée étant de véritablement mettre en lumière le capital humain et de mieux l'exploiter, le mieux le valoriser, en répondant aux aspirations profondes des gens. Moi, j'avais énormément parlé, et il y avait une vraie volonté de s'engager, mais de s'engager sur des choses auxquelles on croit. Et je me suis heurtée effectivement à une position, on m'a dit, en gros, Gaëlle, on comprend très bien, tu as complètement raison, mais nous ne sommes pas prêts à nous transformer.
Juste un truc, c'est, donc, quand on va parler des aspirations des uns et des autres, c'est souvent des aspirations personnelles. Mmh. Et est-ce que c'était autour de ce espèce de prisme personnel qui était un choc, ou c'était tout simplement de ne pas vouloir parler des aspirations?
Je ne sais pas. Moi, à titre personnel, je veux... J'allais dire que j'ai 4 enfants. Et quand je vois aujourd'hui la vision de l'entreprise par toutes les générations, elle ne fait plus envie. Vraiment cette conscience, ce sentiment de participer à une grande œuvre. Et le but de la cathédrale n'était pas de gagner de l'argent. Et donc l'idée, c'est que moi, je voulais remettre dans l'entreprise cette opportunité pour chacun de s'y réaliser, et de s'y réaliser autour de valeurs et d'aspirations qui nous tiennent à cœur.
Et puis, l'image de la cathédrale, surtout dans ces temps-ci, est très, très puissante. Mais en plus, c'est vraiment ça. Il y a des artisans, ce n'est pas des artistes, c'est des artisans qui participent, et ils ne verront pas sur les 300 ans, enfin 200 ans que ça a mis pour Notre-Dame, d'arriver. Donc, je participe dans quelque chose de plus grand que moi.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est véritablement ce vers quoi je voudrais que l'entreprise revienne aujourd'hui. Et aujourd'hui, si effectivement on constate ce désengagement, cette souffrance au travail, c'est lié au fait qu'on a déshumanisé l'entreprise, on lui a enlevé tout son sens. Et l'idée, c'est de remettre l'aventure humaine et effectivement permettre à l'homme ce qu'il était avant, de se réaliser dans son travail et d'avoir cette conscience et d'être valorisé pour son talent, pour son savoir-faire. Et effectivement, on peut parler des cathédrales. Les entreprises suivantes, ça a été les manufactures. Les manufactures de Colbert, c'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour mettre en valeur tout le savoir-faire de ces ouvriers et toutes ces valeurs qu'on veut remettre, parce qu'on est convaincu que c'est elles qui sont porteurs de performance pour l'entreprise, toutes les valeurs du compagnonnage, de respect, de développement, c'est ça qu'on veut remettre. Moi, je discutais très récemment avec des jeunes en disant, mais qu'est-ce que t'attends de l'entreprise? Qu'est-ce que t'attends de ton travail? Et ils m'ont tous répondu, nous, on veut en permanence apprendre, on veut en permanence grandir. Et on ne peut pas envisager être enfermé à 25 ans dans un cursus tout fait. Et on veut avoir cette stimulation permanente de se dépasser, d'avancer, d'aller plus loin et de construire le monde de demain. Tous les jeunes veulent changer le monde, parce que le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui ne leur convient plus et ils n'y retrouvent pas ce sens et cette opportunité de grandir.
Alors, votre solution, Gaëlle?
Alors, notre solution, c'est qu'on s'est dit, effectivement, le management je dis nous parce que je suis avec un associé, ce management qu'on a pu, nous, essayer de mettre en œuvre et qu'on a mis en œuvre de façon réaliste dans l'industrie, on a pu le faire parce qu'on était nous-mêmes animés d'un certain enthousiasme. Presque d'une certaine folie, parce que quand vous faites ça, vous exposez à pas rester, parce que la flamme de l'enthousiasme, au bout d'un moment, quand vous êtes seul à la soutenir, vous partez. Donc on se dit, si on veut vraiment que l'entreprise se transforme, et on est convaincu que l'entreprise de demain, c'est celle qui pourra effectivement reposer sur les hommes et les femmes, et que ça devienne une entreprise human-centric, en révélant tout ce que les gens ont d'unique, on ne peut pas compter sur l'enthousiasme individuel des managers, il y en a trop peu. Donc du coup, on s'est dit, on va proposer un certain nombre d'outils qui vont permettre effectivement de révéler ce potentiel humain. Et du coup, on propose des solutions sur l'ensemble de l'expérience employée, à partir du recrutement jusqu'à la gestion des talents en interne, pour que à tout moment de la vie d'un salarié, il y ait un alignement entre ses vraies aspirations, les valeurs qu'il souhaite intégrer, et que ses valeurs, ses aspirations, ses talents soient alignés avec les besoins et les attentes à un moment donné de l'entreprise.
D'où la naissance de Todd.
D'où la naissance de Todd, où effectivement, on a des outils pour révéler, pour qualifier les valeurs humaines, pour permettre l'expression libre des aspirations, et des outils de matching qui reposent sur des neurosciences et de la psychologie. Aujourd'hui, les neurosciences et la psychologie permettent de révéler les valeurs de chacun, de révéler les ressorts internes, et du coup de les mettre en lien avec, de les marier avec les enjeux, les attentes réelles de l'entreprise, pas celles qui sont exprimées dans une case ou dans une fiche de poste.
J'ai employé le mot désemparé tout à l'heure. Peut-être c'est un bon mot pour décrire l'état dans lequel certaines entreprises à laquelle vous confrontez sur cette idée de parler des vraies valeurs, du de facto de ce qui se passe dans l'entreprise et de révéler ça par rapport à ce qui est écrit dans le rapport annuel.
Alors effectivement, ça peut poser un problème aux entreprises parce qu'effectivement, elles vont toutes afficher des belles valeurs dans leur hall d'entrée, dans leur rapport. Et nous, on leur dit, c'est très beau, mais nous, on a un outil pour vérifier que c'est vrai.
L'esprit killer, on va devoir faire face à ça.
Voilà. Et du coup, effectivement, et c'est ce qui freine le développement de notre approche, c'est que les patrons aujourd'hui, et nous on le voit bien, ne sont pas tous alignés avec ces valeurs d'engagement, de respect, de collectif. Et effectivement, leur dire « ça ne marchera que si tout le monde, du patron jusqu'à l'ouvrier, partage ces valeurs et les met toutes au service de l'entreprise », et donc en fait, il y a une espèce de perte de contrôle. Le résultat n'appartient pas au patron, le résultat il appartient à tout le monde. Et il appartient même à la postérité si on parle des cathédrales. Mmh. Et là c'est compliqué.
Parce qu'en fait, le problème quelque part, c'est qu'on a beau comprendre peut-être qui est le candidat, mais il faut encore que ça corresponde à une réalité en entreprise. Et donc quelque part, si je comprends bien, donc Todd permet à une entreprise de se regarder et de manifester en transparence qui ils sont.
Tout à fait. Et donc effectivement, nous, quand on présente des candidats, notamment sur des postes en recrutement, comme l'idée c'est de faire un matching entre les valeurs et les attentes des deux côtés, donc nous, on profile autant nos candidats que nos entreprises et nos clients, il peut très bien nous arriver de dire à un candidat, écoutez, pour ce poste, pour cette mission, pour ce projet, c'est top, vous allez vous éclater, vous allez y retrouver tous les éléments, tous les ingrédients nécessaires à votre réalisation personnelle. Néanmoins, on vous le dit, les valeurs de l'entreprise telles qu'elles sont affichées ne sont pas les vôtres. Donc ne vous projetez pas au-delà. C'est-à-dire que ce mariage réussi entre vos aspirations, vos valeurs, vos ressorts internes, c'est le temps du projet. Mais ce n'est pas grave, vous en trouverez un autre ailleurs. Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas alignée avec vos valeurs, mais pour le projet donné, vous êtes la personne qu'il faut et vous allez vous éclater.
Alors, en vous écoutant, si je suis un jeune, et souvent les jeunes sont intéressés par les projets, mm-hmm. C'est un projet intéressant, stimulant, qui me correspond, j'ai l'expertise pour pouvoir le faire, et ça correspond totalement à l'esprit d'un jeune mm-hmm. qui se dit, pendant 18 mois, je m'attaque, j'adore. Pour l'entreprise, en revanche, il y a souvent, il est là pour la carrière, tout l'argent que je dépense pour l'embaucher, pour la former. Je ne veux pas qu'il parte au bout de 18 mois. Donc, comment aligner ces deux aspects ?
Alors, nous, on est convaincus qu'il faut changer de vision sur les ressources humaines. Il y a effectivement cette vision traditionnelle qui se ressort même dans les termes utilisés par les DRH. Acquisition de talents, rétention de talents, comme si les talents étaient leur possession. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un monde de possession. On est dans un monde de partage et d'ouverture. Donc moi, je suis convaincue que le succès de l'entreprise de demain, elle reposera sur un écosystème de talents avec des gens qui vont rester toute leur vie dans l'entreprise, qui vont assurer la continuité. Mais ce ne seront pas les mêmes. Les moteurs internes de quelqu'un qui a besoin de changer, qui vit en mode projet, sont pas les mêmes. Et donc, il leur faudra, et les talents dont ils ont besoin à un moment donné, s'ils ont un projet particulier de transformation, ils en ont besoin pendant le temps du projet. C'est pas la peine de chercher à retenir des atouts et des compétences dont ils n'ont même plus besoin. Ces compétences vont dépérir puisqu'elles ne seront plus sollicitées. Donc l'idée, et c'est aussi une des ouvertures que propose Todd, c'est de gérer un écosystème de talents du dedans avec des talents du dehors qui vont venir 6 mois, 1 an, 3 ans et qui resteront tant qu'il y aura cette tension positive entre leurs aspirations à grandir, à se développer, à apporter leurs compétences et l'attente de l'entreprise à un moment donné. Ensuite, eh ben, ils iront s'enrichir, ils iront enrichir de leur expérience de projet une autre entreprise qui leur donnera également énormément de matière pour ensuite être de plus en plus fort et pouvoir aller de projet en projet. Mais effectivement, c'est très important d'avoir cette notion d'ouverture et de partage et pas de possession des talents. Mmh. Aujourd'hui, il y a deux choses dans cette gestion des ressources humaines dont les mots sont affreux. Il y a une notion de ressources humaines comme si vous aviez des ressources sur étagère, voire des consommables. Et aujourd'hui, l'humain est souvent vu comme un coût, comme un consommable, ce qui est terrible, alors que c'est quelqu'un qui doit, que c'est justement une ressource au sens d'une création de valeur permanente. Et l'idée et tout l'enjeu est de garder toute l'énergie humaine et de la développer. Et que cette énergie humaine, elle soit de plus en plus grande et de plus en plus forte.
Je pourrais dire d'abord la notion de location de quelqu'un au lieu de propriété. Ça me paraît intéressant. Et l'autre chose, c'est par rapport à l'agilité, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, il faut que je change, il faut plus rapide. Et cette notion d'avoir des gens sur des projets, ça correspond aussi à la notion de philosophie de management de l'agilité.
Alors exactement, c'est de l'agilité, et moi j'aime bien parler de cet écosystème mouvant. Il n'y a pas de frontières, les frontières de l'entreprise, non, il y a un certain nombre de partenaires qui vont, qui viennent, et qui apportent, le moment voulu, la bonne compétence, le bon talent au bon moment. Et ça peut être également en temps partagé. Vous n'avez pas forcément besoin d'un temps plein pour tenir un poste. Et d'ailleurs, c'est paradoxal. Si justement la mission, souvent l'entreprise, si c'est un poste de très haut niveau avec des très grands enjeux, va se dire « je ne peux pas proposer un temps partiel ». Et donc du coup, ils vont mettre un grand directeur chef de projet à temps plein, mais le chef de projet, il est là pour battre la mesure. Mais comme ce n'est pas lui qui fait, eh ben, vaut mieux qu'il soit pas là. Et donc, en fait, paradoxalement, il sera beaucoup plus efficace à mi-temps ou un jour par semaine et laisser de l'air et de l'oxygène à ceux qui font et pas être toujours derrière leur dos. Et du coup, ça conduit à du micromanagement, à de la pression inutile qui n'est pas créatrice de valeur.
Je pense au présentéisme parfois aussi dans cette notion, si on parle de temps plein à temps partiel. L'idée de présence devient encore plus présente dans la conversation. Quel est votre point de vue et votre expérience qui fait par rapport à cette notion de présentéisme ?
Alors moi, je suis très, très souple en matière de présentéisme. Il n'y a aucun sens à la présence si elle ne sert à rien. Moi, je suis vraiment beaucoup plus... Alors ça, c'est la notion de lean, c'est-à-dire qu'on ne fait que des choses qui créent de la valeur. Et là, justement, je suis en train de faire une réflexion sur les moudas. Alors pour ceux qui savent, le mouda en lean, c'est tous les gaspillages, tout ce qui ne sert à rien. Et les vrais projets lean, c'est la chasse au mouda, et c'est on met en valeur la vraie création de valeur de chacun. Celui qui sait améliorer le poste de travail, c'est l'ouvrier. Et justement, le chef de projet qui n'a aucune compétence sur le poste de travail, qui vient l'embêter en lui demandant des comptes toutes les 5 minutes, il n'y a aucune valeur. Donc le fait de rester au bureau pour rester au bureau et être présent n'a pas de sens en tant que tel. Alors ça dépend des postes. Bien sûr, quelqu'un qui est à l'accueil, une hôtesse d'accueil, si elle n'est pas là tout le temps, alors certes, quand personne n'arrive, on peut penser qu'elle sert à rien. Mais là, il y a cette notion de service permanent, et donc là, ça a du sens. Effectivement, le présentéisme a aussi une valeur pour ceux qui ont besoin de travailler en collectif. C'est-à-dire que l'entreprise qui dit « vous venez jamais travailler chez vous », il n'y a pas cette affection societatis qui peut se créer. Donc il y a quand même besoin de venir, mais pas venir pour venir. Donc effectivement, le côté entreprise libérée, du moment où vous avez vos objectifs, vous les remplissez très bien. La seule limite au fait de faites ce que vous voulez, venez pas au bureau, c'est qu'il y a quand même ce besoin de construction collective. Donc il y a besoin d'être ensemble. Mais le présentéisme pourra le présentéisme. Et notamment, donc là, on a des clients qui ont vraiment tout compris de l'esprit de Todd. Et là, j'ai un exemple, alors je ne le citerai pas, mais je ne citerai pas l'entreprise, où on a toutes les possibilités de souplesse dans l'utilisation des talents. C'est une entreprise qui est venue nous voir en disant « on a besoin de se transformer, on ne sait pas trop ce dont on a besoin de se transformer. On a fait de la transformation digitale, mais notre métier bouge tellement, il faut qu'on aille plus loin. Est-ce que vous pouvez nous trouver quelqu'un qui va nous aider à construire notre projet de transformation. Donc là, pas de problème, on a trouvé chez Todd quelqu'un qui faisait, c'est une designeuse au départ et qui fait beaucoup de design thinking, mais qui a mis tout son savoir-faire de designeuse au service de la stratégie. Donc au début, elle n'y est allée que pour animer un séminaire, le préparer, l'animer avec l'équipe, pour construire le projet. Donc c'était 5-6 jours, pas plus. Vraiment, alors...
Coup de poing.
Voilà, un coup de poing, mais avec les outils de Todd, donc en révélant dans l'équipe qu'elle devait mettre en mouvement toutes les forces en présence. Donc on a utilisé les outils de profiling pour révéler le potentiel de l'équipe. Ensuite, après le séminaire, la patronne de l'équipe a dit « Non, non, mais faut qu'elle reste. Maintenant, il faut nous aider à mettre en œuvre. » Donc là, on s'est dit « Pareil, c'est pas un temps plein, c'est... Bon. » Et donc la personne, on a fait un contrat de freelance. Et ça devait durer 6 mois à mi-temps. Et finalement, la mayonnaise a tellement pris que la personne était tout le temps dans l'entreprise. Mmh. Donc le client dit, je me dépêche, le client dit, bon, on va l'embaucher. Mais moi, j'ai dit, attention, pour qu'elle reste suffisamment apporteuse de performance, il faut lui laisser un espace de liberté. Et donc, ils ont su faire un contrat qui est un contrat temps plein, mais qui autorise contractuellement notre talent Todd à aller s'enrichir 2 mois par an chez d'autres clients, sans aucun contrôle de son employeur principal. Et je trouve ça extrêmement intéressant, de comprendre que pour apporter du transformation, de l'énergie, il faut la puiser quelque part.
Et quelque part, on peut chercher ailleurs l'inspiration et apprendre d'autres endroits. Comment est-ce que Todd permet de révéler ce genre d'aspiration d'un côté, parce que ça, c'est une aspiration personnelle que portait cette designeuse, et l'adéquation par rapport au poste voulu.
Alors ça, c'est tout le savoir-faire de Todd. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des outils qui vont profiler les personnes, effectivement, leurs aspirations, leur mode de fonctionnement, et typiquement dans l'exemple que j'ai donné, cette personne, si elle n'est pas nourrie en permanence par de l'innovation, là, elle va tout donner à son employeur, enfin, ex-client et employeur, mais si elle n'a pas encore des sources d'enrichissement, elle va s'appauvrir.
Donc, c'était la curiosité dont on parlait tout à l'heure, exactement. L'envie d'apprendre tout le temps.
Voilà. Et il y en a d'autres, en revanche, ils ont besoin d'une stabilité. Ils vont s'inscrire dans la durée, et plus ils auront d'expérience, plus ils seront performants. Donc ceux-là, il ne faut pas les bouger. Et derrière, on a aussi développé des outils pour profiler les enjeux d'un poste, d'une mission, d'un projet à un moment donné. Donc typiquement, même si on n'avait pas beaucoup d'éléments, on n'avait surtout pas de fiche de poste sur ce projet de transformation, on en a tout de suite compris quels étaient les moteurs pour présenter la bonne personne en face. Et c'est véritablement ça le savoir-faire de Todd, qu'on a même transformé dans une solution logicielle intégrée pour gérer les salariés d'une entreprise au regard des enjeux d'un moment donné, pour trouver face à chaque enjeu, face à cette situation, le meilleur talent qui existe dans l'entreprise. Mais on va le révéler parce que c'est sous vos yeux, mais vous ne le voyez pas parce que vous ne le regardez pas avec nos lunettes.
Donc, sans dévoiler évidemment la propriété intellectuelle du projet, comment est-ce que vous pourriez décrire l'avantage compétitif de Todd et comment est-ce que ça peut être unique sur le marché ?
Alors c'est unique parce que on est les seuls à véritablement s'intéresser à tout ce qui est singulier, unique dans l'humain. On n'a rien inventé sur les travaux de neurosciences ou de psychologie. En revanche, ce qu'on fait, c'est que d'abord on va y chercher, ce que personne va y chercher, des notions de valeur, de respect, de confiance, de fiabilité, et on va profiler autant le salarié et le candidat que son encadrement, que l'entreprise et que le poste à un moment donné. Donc tout repose sur une évaluation régulière, une réévaluation permanente de l'alignement entre les valeurs et les aspirations du salarié ou du candidat avec le poste. Alors si c'est en permanence, c'est le salarié. Régulièrement, on va vérifier qu'il est toujours en alignement, qu'il est toujours dans cette perspective de se réaliser, de se développer. Et dès qu'on va sentir qu'il va y avoir des signes d'impatience, des signes d'ennui, il va falloir le faire bouger. Et effectivement, notre spécificité, c'est d'aller y chercher véritablement l'humanité de la personne et ce qu'elle ressent, ses ressorts internes. Effectivement, vous allez avoir beaucoup de tests qui vont dire « oui, vous, vous êtes leader, oui, vous, vous êtes opérationnel ». Mais nous, on va beaucoup plus loin. On regarde en fonction de qui vous êtes, de comment vous exprimez et vous exploitez votre savoir-faire à un moment donné. Et dès que vous ne l'exploitez plus, parce que vous ne vous y retrouvez plus, nous, on va le voir. Voilà, donc notre spécificité, c'est de profiler des deux côtés, aussi bien les postes que les entreprises par rapport aux salariés et aux candidats, et d'aller y chercher la vraie quintessence de l'humanité, des qualités humaines, c'est-à-dire des notions de confiance, de respect, ces fameuses valeurs qui sont affichées dans les halls et dont on ne regarde jamais l'incarnation réelle.
Je vais y revenir dans deux secondes, mais juste un petit point, c'est sur l'idée du designer, sur la stratégie. Ça me paraît de plus en plus un mariage extrêmement puissant. Quelqu'un qui est dans le design, qui donc va penser avec l'empathie, avec écoute, sur l'expérience des employés en l'occurrence, mais aussi sur la stratégie, ça a toute sa place. Donc, j'ai envie de dire, sur les personnes qui pensent sur la stratégie, aller chercher un designer, c'était juste un petit aparté. Mais quand on va dans l'entreprise, quand vous allez dans les entreprises, ils sont très fiers de vous dire, voilà, nous on a les valeurs de tranquillité, indépendance, intelligence, innovation, je ne sais pas. Mais quand vous dévoilez que derrière, ce n'est pas ça, comment se passe la conversation ?
Et la conversation, paradoxalement, est très intéressante. Parce que on a eu des retours. Alors souvent, quand on va démarcher des nouveaux clients pour leur expliquer notre approche, les gens sont quand même toujours sceptiques, en disant « bon, il y a peut-être du vrai, mais… » Et du coup, avant même d'aller les voir, que ce soit le patron ou que ce soit le DRH, qui sont nos deux interlocuteurs principaux dans les entreprises, on leur fait leur propre profiling avant d'aller les voir. Donc ça veut dire que on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Et on va être capable de leur envoyer, c'est une audio en plus les gens aiment bien qu'on leur parle d'eux, donc on n'envoie pas 10 pages avec des graphiques, un rapport qui vous ennuie, que vous regardez en diagonale et que vous mettez dans votre armoire. C'est une audio. L'audio a ceci de particulier, d'abord qu'elle est beaucoup plus humaine, qu'on ne peut pas la lire en diagonale, donc soit vous l'écoutez, soit vous ne l'écoutez pas. Et quand on vous parle de vous, quelle que soit votre personnalité, ça vous intéresse. Et donc du coup, on leur envoie. Et les réactions. Et on est très transparent. Donc on va dire à quelqu'un qu'il n'est pas empathique, qu'il est stressé, qu'il stresse les autres, visiblement il a un problème. On va lui dire de façon très neutre, hein, puisque l'idée est de faire ressortir ses vraies forces. Donc on va lui dire, donc toutes nos audios sont toujours positives, puisque l'idée c'est on va montrer ce que vous avez de bien, vos forces, vos vrais moteurs. Par contre, on va aussi montrer comment vous les utilisez ou vous ne les utilisez pas. Et qu'effectivement, comment votre comportement va influencer votre puissance pour l'entreprise. Et les réactions sont très surprenantes. Nous, on a quelqu'un qui nous a dit « Non mais attendez, votre outil, il est ultra dérangeant, vous êtes rentré dans ma tête. » Bon, c'est vrai que cette personne, on lui a dit qu'elle était convaincue par son projet, mais qu'elle n'était plus convaincue par l'alignement de son entreprise sur ce qu'elle voulait faire et qu'elle n'y croyait plus. Et que du coup, on lui a dit, écoutez, je pense que vous êtes en train de chercher ailleurs. En tout cas, vous avez intérêt puisque vous n'avez plus d'alignement. Et elle nous a dit, mais c'est tout à fait vrai, comment vous l'avez vu ? Voilà. Après, il y a des patrons qui finalement se disent, mais vous voyez tout ça ? Il y a des patrons à qui on a dit, bon écoutez, vous allez très bien, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas en burn-out ou quoi que ce soit, mais votre situation actuelle ne vous convient pas. Et c'est une discussion très rigolote qu'on a eue avec un patron d'une entreprise relativement importante, et qui, bon, j'ai fini par le faire dire, qu'effectivement il avait un souci qui était plus d'ordre personnel que professionnel, mais que la compatibilité entre son poste et sa vie personnelle était de plus en plus difficile à tenir. Et du coup ça les surprend, ça les amène à s'interroger sur eux-mêmes, et la bonne nouvelle c'est que ces patrons qui sont pas toujours très alignés avec toutes ces valeurs d'empathie, de respect, mais finalement quand on leur dit, bon, ils l'assument. Donc, ça leur fait un peu peur, mais ils l'assument. Donc, c'est pas. Voilà. Mais effectivement, du coup, ça permet d'avoir des discussions qui vont sortir du cadre d'analyse de CV, d'analyse de fiches de poste, qui ne sont pas le sujet. Le sujet, il est comment on fait pour bien aligner toutes les aspirations et mettre au service de l'entreprise et de ses enjeux le plus d'énergie possible.
Alors, vous faites miroir à la personne, vous apportez des vérités, en tout cas des réflexions qu'ils assument. Souvent, on a peur d'aller dire la vérité à quelqu'un, par peur de dire bah, « je veux vous offenser », surtout si c'est un client. Et le fait qu'ils assument, ça veut dire qu'ils y pensaient déjà. En fait, c'est vrai ce qui se passe. Mais quand on est au niveau d'une entreprise, hein, ça peut dire bah, « la personne va partir ». Donc ça peut avoir un effet un peu négatif sur l'entreprise, enfin en tout cas, à long terme non, mais à court terme peut-être oui, parce que la personne va partir, et où on est sur une entreprise qui dit des choses, et dans la réalité c'est pas la même chose. Donc la vérité est là, et faire dévoiler cette vérité au niveau de l'entreprise, comment est-ce que vous y arrivez là-dedans? Parce que ça fait de la transformation, tout ça.
Ah ben complètement. Et effectivement, il y a une peur du changement. Et notre problématique, elle est bien là aujourd'hui. Effectivement, on est très bien reçus. Effectivement, les gens qui acceptent de jouer le jeu et de tester nos outils sont la plupart du temps bluffés. Je ne veux pas vous dire que c'est 100%, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ne veulent pas se regarder dans le miroir.
Donc, et tout ça, ça dépend des inputs, quelque part. Enfin, je suppose qu'il y a quand même un moyen de l'autre de raconter sa vie. Et alors après, si la personne ment, n'est pas juste avec lui-même, ça peut rendre difficile les résultats.
Oui, mais alors...
Excusez-moi.
Pas de souci. Donc vous avez tout à fait raison. L'input, c'est un petit questionnaire. Ça fait 120 questions, mais il faut y répondre le plus rapidement possible. Donc en un quart d'heure, 20 minutes, on vous demande de répondre à des questions ultra simples. Donc effectivement, vous avez le choix d'essayer de vous transformer. Mais ça, on n'a pas trop eu ça, parce que ça n'a aucun intérêt. Leur but, c'est de savoir si notre outil marche. Donc s'ils répondent n'importe comment, ils ne sauront jamais si ça marche. Voilà. Donc ça, a priori, ils répondent tous de façon transparente. Après, ils n'acceptent pas tous le retour. Mais... c'est très rare, alors c'est pas très rare de « non, mais je suis pas comme ça, gna 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 ». Bon, quand on discute, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure de discussion avec la personne, « ah oui, c'est quand même vrai voilà. ». Donc effectivement, c'est compliqué, mais...
Les humains sont compliqués.
Voilà, mais effectivement, comme on s'attaque à vraiment ce qu'il y a de plus humain, c'est quand même, ça intéresse tout le monde. Ça interpelle.
Oui, et puis votre manière d'écouter, je le vois en parlant avec vous, vous avez une écoute qui rentre dedans et qui est très intense. Et amener ça dans l'entreprise, en fait, si vous pouvez apporter votre manière d'écouter et être animé, c'est ça dont les entreprises en ont surtout besoin.
Oui, alors effectivement, et moi j'ai toujours été comme ça. Mais quand c'est vous, et quand je faisais des retours sur voilà ce que j'ai entendu, non, mais c'est ta vision des choses, et le fait d'avoir des outils, ça rassure.
Oui.
Ça rassure l'entreprise. Exactement. Même si elle est très humaine, et c'est ça notre savoir-faire, c'est comment arriver à révéler l'humanité avec 120 questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse des 120 questions est partiellement automatique. Mais il y a de toute façon une vraie analyse humaine derrière, parce que il y a pas de personne pareille. Donc il y a vraiment cette analyse. Et vous me posiez la question sur est-ce que c'est difficile de dire la vérité. C'est la posture de Todd, c'est de vraiment être transparent. Pas agressif, pas méchant. On ne dit nos retours, c'est une photo, vous êtes tel que vous êtes. Ensuite, vous vous assumez ou vous vous assumez pas, mais c'est vous. Voilà, et nous on peut rien dire d'autre. On ne porte aucun jugement. On s'attache dans les restitutions qu'on fait, donc qui sont enregistrées, donc il y a vraiment une personne qui vous parle, ce n'est pas une voix automatique. Elle a comme objectif et comme instruction d'être le plus objectif possible, mais de dire les choses, mais sans agressivité et surtout sans jugement.
Alors, dernière question, ligne de question, c'est autour de Todd. Vous avez à la fois des entreprises qui sont des clients,
oui,
et les recrutements, les candidats, et sur le marché, et comment Todd opère, lesquels des deux est le plus facile, ou est le point le plus difficile?
Nous, il nous faut les deux, et effectivement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la communauté, parce qu'effectivement, on a une communauté de talents, on est les seuls à avoir cette communauté qui n'est sélectionnée ou rentrée dans la communauté uniquement sur vos valeurs humaines. On a un cadre de valeurs à incarner, donc d'engagement, de confiance, de respect, de sens du collectif, qui, pour nous, cette communauté, c'est ceux qui vont construire, c'est les bâtisseurs de l'entreprise de demain, qui, pour nous, va revenir à l'entreprise initiale, cette fameuse entreprise de construction de cathédrale. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui est arrivé à Notre-Dame, cette volonté, et on sent bien qu'on répond à une attente de la société, le nombre de gens qui veulent, à tout niveau. Il y a des gens qui donnent 1 euro pour reconstruire Notre-Dame. Et il y a vraiment une volonté de s'engager sur quelque chose auquel on croit de façon collective.
Le monde cherche du sens.
Exactement. Et donc nous, notre communauté, elle est unie par cette recherche de sens et ses valeurs humaines. Et dans la communauté, il y a autant de gens qui cherchent du travail, qui veulent travailler en freelance, et il y a des gens de l'entreprise qui ont des postes et qui y sont pas très heureux, ou n'y trouvent pas justement le sens qu'ils y cherchent aujourd'hui, et qui intègrent la communauté un peu en nous disant « voilà mon rêve, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà le sens que je cherche ». Et bien si vous trouvez ça dans une entreprise, appelez-moi. Moi je suis prêt à changer si je peux trouver tout ça. Donc un peu comme une boîte à rêves. Et on a toujours appelé à rejoindre la communauté le maximum de gens possible. Plus on sera nombreux, plus on sera fort et crédible vis-à-vis de l'entreprise. Et très souvent, quand on a eu des contacts avec des personnes clientes, elles sont venues s'inscrire en talent. Mmh. Donc c'est les deux côtés. Donc au début, effectivement, pour trouver des clients, il nous fallait une communauté. Voilà, mais la communauté devient aussi pourvoyeuse de clients. Donc c'est un peu un cercle vertueux qui fait que l'un entraîne l'autre. Et c'est vrai qu'au départ, pour commencer, les premiers clients, c'est des gens qui nous connaissaient. Donc qui nous connaissaient à titre personnel et qui avaient envie que le projet réussisse. Et donc on dit, on va vous aider. Voilà.
Friends and family.
Exactement.
J'ai une amie qui est patronne d'une agence de communication et parmi les critères de recrutement, elle demande dans les premiers 6 mois, quel est votre rêve personnel? Et en fonction des objectifs atteints, elle s'emploie avec son entreprise à atteindre ce rêve personnel, qui peut être, j'ai envie de faire la bicyclette dans les Himalayas pendant 6 mois, quoi que ce soit. Et elle intègre ça dans l'aspiration. Donc j'ai envie de dire, elle a une communauté prête pour vous.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vraiment, c'est complètement aligné. Bon, sachant que nous, on est sur le rêve professionnel. Mais il est clair que les aspirations de chacun, le rêve professionnel et le rêve personnel, sont forcément liés.
Ils doivent être.
Voilà.
Pourraient être vrais.
Exactement. Et effectivement, ça va ensemble. Donc, elle a tout compris.
Voilà. Bon, comment est-ce que quelqu'un donc peut comprendre un peu mieux Your Todd et puis suivre ce qui se passe et éventuellement vous embaucher?
Il vient nous rejoindre dans notre communauté. Qu'ils veulent être talent, partenaire, qu'ils veulent apporter ce qu'ils veulent pour construire Todd, faut rejoindre la première étape, c'est de rejoindre notre communauté. Donc c'est sur www.yourtodd.com et effectivement derrière cette communauté elle vit. C'est pas uniquement une communauté à la LinkedIn ou à la Facebook où vous rencontrez jamais des gens. Nous, on veut vraiment donner, partager de façon réelle, physique, ces valeurs humaines et cette volonté et cette vision de l'entreprise. Et donc tous les 2 mois à peu près, on fait des rencontres autour de personnalités inspirantes et autour de moments de convivialité où les gens peuvent se rencontrer et de se dire non, vous êtes pas tout seul à vouloir construire cette entreprise et non, c'est pas une utopie. Cette entreprise humaine et collective, elle existe et elle va être de plus en plus généralisée.
Non seulement a ce l'air d'être une jolie mission et cette idée d'aller chercher une communauté autour d'un rêve, je trouve ça très, très sympathique à ce sens-là, mais aussi, à mon avis, à mon sens, ça doit avoir une vraie efficacité en entreprise. Gaëlle, merci beaucoup d'avoir donné votre temps pour cet entretien. C'était un plaisir et j'espère que Your Todd fait des effets qu'il faut.
Merci beaucoup, Minter.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is a reason, still I won't tell the lie. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced.
Don't you know that you're a grown-up?
I'm a grown-up.
Me too.
Yep, me too. But you know, these days, being a grown-up can really suck.
Luckily, we're grown-ups who grew up in the coolest generation.
We had video arcades.
And also some of the best TV and movies ever made.
We lived the origin of awesome consumer electronics. The list goes on and on.
Yep, Generation X.
Exactly.
And we're Gen X Grown-Up.
Every week, the Gen X Grown-Up podcast explores media, tech, toys, games, and more from both yesterday and today.
Through the eyes of Generation Xers who absolutely love that stuff. You can find us on iTunes or wherever you get your podcasts.
Or find us on our website, genxgrownup.com. All right, think that was good enough?
I hope so, man. I'm tired.
Who listens to a promo on a podcast and then goes and listens to a different podcast?
Right.
I've never done it.
Right.